Quand vient le mois de décembre, la magie de Noël s'installe dans les foyers et dans la ville. Les devantures des magasins s'illuminent et les rues se remplissent de passants émerveillés malgré le froid. Dans la chaleur des maisons, les sapins se dressent, couverts de décorations brillantes. Parfois, avec un peu de chance, la neige se met à tomber et comble de bonheur les enfants qui se précipitent dehors pour construire de jolis bonhommes de neige. À cette période de l'année où l'hiver commence doucement à s'installer, les fêtes de Noël offrent un doux réconfort. Mais lorsque les repères de cette belle saison volent en éclats et s'assombrissent, le cauchemar guette. L'ombre derrière le beau sapin se fait menaçante, et les adorables petits lutins nous fixent soudainement d'un regard plus inquiétant qu'il n'y paraissait auparavant. Lorsque la magie de Noël s'envole et que la noirceur des hommes revient, quand les mythes qui nous rassurent se retournent contre nous, l'hiver nous rattrape, et son obscurité glaciale ne nous veut pas du bien.
Je suis Charles.
Je suis Mathias.
Bienvenue dans le Bureau des Mystères. Le sapin de Noël. Pete regarde l'arbre, un whisky à la main. Il se sentait heureux et se disait que cette année serait différente de la précédente. L'année qui était sur le point de se terminer avait été étrange pour lui, mais tout allait rentrer dans l'ordre, pile à temps pour Noël. Il fixe le sapin de Noël et ses somptueuses et scintillantes lumières éclairent la pièce d'une aura chaude alors que, par la fenêtre, on peut voir la neige tomber en silence. Pete repensa à son année, à sa femme Janet et sa fille Lana. Tout avait commencé par un mois de décembre totalement normal, il y a 12 mois de ça. La petite ville dans laquelle ils vivaient se couvrait doucement d'une fine couche de neige. Les habitants passaient le plus clair de leur temps libre à dégager les voies pour éviter qu'elles ne s'accumulent. Sa femme aimait se promener en cette saison et elle s'attelait chaque année à une mission très particulière. Elle était partie depuis plusieurs heures maintenant. Si Janet était toute dévouée à sa famille, elle avait besoin de ces moments de solitude pour se vider la tête, s'échapper d'un mari certes aimant mais parfois collant et d'une fille si gentille mais prompte à tester la patience de ses parents. Lorsqu'elle avait envie de s'échapper, Janet passait simplement par la porte de derrière et partait marcher dans la forêt dont leur maison était à la lisière. Son horizon n'était constitué que de conifères et se terminait à quelques kilomètres de là, par le concours d'une colline plus haute que les autres. C'est à elle que revenait la tâche de choisir l'arbre de Noël et elle aimait particulièrement cette mission qui lui permettait de s'évader. Chaque année, elle partait ainsi dans la forêt pour trouver et couper l'arbre idéal. Elle aimait cette tradition solitaire et n'acceptait l'aide de personne. Janet passait un temps considérable en forêt et avait repéré il y a des années un coin propice à la découverte de l'arbre idéal, le sommet d'une colline composée de pins qui irait très bien dans le salon. Les arbres se raréfiaient à mesure des années, d'autant que d'autres habitants prenaient l'habitude de se servir dans la forêt pour leurs propres arbres de Noël. Mais cette année, Janet était partie depuis plus de 3 heures. Cela rendait Pete nerveux. Elle ne mettait pas autant de temps d'habitude, et le jour commençait à décliner. Il décida de partir à sa recherche. « Elle doit ramener un arbre un peu plus gros que d'habitude », expliqua Pete à sa fille. Il lui ordonna de fermer la porte derrière lui et de rester dans sa chambre. Lana le regarda partir par la fenêtre, souriante et agitant ses mains pour attirer l'attention de son père. C'est ce qu'il pensait. Janet avait dû couper un arbre un peu plus gros que d'habitude et devait éprouver des difficultés à le traîner dans la forêt. Il se souvenait de cette soirée comme si c'était hier. La neige était épaisse au sol et sa surface commençait à geler. Quelques flocons tombaient encore, mais il distinguait sans mal les traces de pas laissées par Janet. De toute façon, même sans traces de pas, il savait où aller. La colline où Janet se rendait chaque année n'était qu'à 3/4 d'heure de marche. Certaines années, Janet retournait sur la colline prendre un arbre plus petit pour décorer la chambre de Lana. Il n'était pas rare dans les environs que les familles prennent 2, voire 3 sapins de Noël. C'était une tradition locale que de prendre un arbre pour chaque chambre, en tentant de faire correspondre la taille de l'arbre avec l'âge de celui qui l'accueillait. Alors que Pete se rapprochait du sommet de la colline, Il comprit que quelque chose n'allait pas. Il le sentait en son fort intérieur. Il escaladait la pente de plus en plus prononcée, en même temps que la neige recommençait à tomber en quantité. Arrivé en haut, seul le bruit de ses pas rompait avec le silence. La neige tombait droit. Aucune brise ne venait perturber sa descente. Il suivait les empreintes de pas, toujours visibles de Janet, maintenant sans s'en détacher des yeux. Si la neige continuait à tomber comme cela, elle recouvrirait bientôt les traces de sa femme. Le crépuscule passé, le ciel sombre renvoyait une lumière bleue sur la neige et le froid se faisait plus mordant. Les traces se faufilaient entre les arbres pour finalement s'arrêter devant un arbre en particulier. Il était magnifique, l'arbre parfait pour le salon. Les branches idéalement espacées, ni trop grand ni trop petit, d'un vert rayonnant sous son manteau neigeux. Mais toujours pas de traces de Janet et aucune autre trace n'indiquait où continuer. À la fois dérouté et inquiet, Pete regardait la neige vierge qui l'entourait. Les alentours ne présentaient aucun signe de vie. Quelque chose attira cependant son attention. À la base de l'arbre, on pouvait observer des traces, comme si Janet avait commencé à donner les premiers coups de hache dans le tronc. Pete enleva son gant droit et toucha l'encoche. Cela ne faisait aucun doute. Janet avait donné plusieurs coups dans le tronc. Il pensa brièvement que l'attention de Janet s'était portée sur un autre arbre et qu'elle avait continué son chemin, mais il chassa cette idée. Il savait que l'arbre devant lequel il se trouvait était celui que Janet avait choisi. Il était parfait. Peut-être que la neige avait recouvert le reste de ses empreintes. Il continua quelques mètres. Une ombre au sol attira ensuite son attention. Il s'en approcha. Ce n'était pas une ombre, mais la hache de Janet, partiellement recouverte de neige. Il la prit. Impossible de se tromper. C'était l'âge de sa femme. Il regarda autour de lui, pris de panique. Toujours rien. Toujours le silence. Il appela Janet, hurla son nom pendant plusieurs minutes. Peut-être s'était-elle blessée, cachée entre deux arbres. Aucune réponse. Il faisait désormais complètement noir. Pete alluma sa lampe torche et poursuivit dans la direction qu'avait suggéré sa hache. En entrant dans un amas d'arbres beaucoup plus épais, il remarqua de multiples branches cassées, tombées au sol, comme si quelque chose avait forcé le passage entre les arbres. Peut-être Janet était-elle passée par là, mais le passage ainsi créé semblait grand, trop grand pour avoir été causé par sa femme. Dans un autre pays, Pete aurait songé à un ours, mais ils avaient disparu de la région il y a longtemps. Aucun prédateur de cette taille ne lui était connu. Pete ajusta son écharpe, tentant de couvrir son visage à mesure que le froid se faisait de plus en plus pressant. À cet instant, quelque chose au sol réfléchit la lumière de sa lampe torche. Il s'approcha de ce qu'il pensait être le cadavre d'un animal pour découvrir le corps sans vie de Janet. Une crise cardiaque, ont assuré les médecins. Une crise cardiaque. Mais Pete avait vu son visage. Ses yeux, autrefois pleins de bonté, avaient laissé place à un visage crispé, horrifié, figé dans une expression de terreur. Ses mains serrées devant elle, comme essayant de se protéger, n'avaient rien d'anormal pour les docteurs. Il n'arriverait jamais à oublier son visage. Ses lèvres complètement retroussées, laissant ses dents apparentes, et ses yeux, grands ouverts, fixant le ciel. Sans sa fille, il n'aurait pas tenu le coup. Ces 12 derniers mois ont été les plus durs de sa vie. Tout le ramenait à Janet et toutes les premières fois sans elle ressemblaient à un supplice. Le premier Noël, le premier jour de travail, les premières réunions de famille, et toujours les mêmes remarques. « Ça doit être dur. Est-ce que tu tiens le coup? Dis-moi si je peux t'aider. » Mais tout ceci avait cessé. Ils avaient traversé l'horreur, le déni, les repas silencieux, les pleurs, les anniversaires et fêtes vides de sens. Cela faisait 12 mois que Janet avait disparu, et ils avaient tout traversé. Aujourd'hui, cela a cessé car Pete sait ce qu'il doit faire pour regagner ce sentiment d'accomplissement qu'il avait déserté. Dans quelques jours arriveront les parents de Janet, les siens, et tous fêteraient Noël ensemble. Tous viendraient les soutenir. La maison est décorée et il ne manque qu'une seule chose pour que tout soit à nouveau parfait. Un sapin de Noël. Janet avait choisi cet arbre, celui-là précisément, et c'est lui que Pete veut ramener à la maison aujourd'hui. Cet arbre allait siéger au milieu du salon, quoi qu'il en coûte. Le jour de l'anniversaire de sa mort, Pete sortit de chez lui, équipé de la hache de sa femme, et marcha droit vers le haut de la colline. Le soleil brillait fortement à cette heure de la journée, et il faisait moins froid que l'an passé. Mais chaque pas qui le rapprochait de l'arbre le rendait plus malade. Chaque pas le ramenait au traumatisme de l'an passé. Continuant vers le sommet, il croisa l'endroit où il avait retrouvé sa femme, essuya une larme et se dirigea vers l'arbre. Il sortit la hache de son sac et, lorsqu'il vit le conifère, se jeta avec force sur lui. Sa hache à la main, il prit le plus d'élan qu'il pouvait, frappa violemment le tronc à sa base, à l'exact emplacement où Janet avait tapé l'an dernier. Il s'agissait d'un acte de revanche. Il continua à frapper l'arbre de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il émette un étrange craquement, cède et tombe au sol. Qu'importe ce qui était arrivé cette nuit, c'était la faute de cet arbre. Il était désormais par terre et Pete se sentait victorieux. Il attacha la corde qu'il avait enroulée autour de l'arbre à sa ceinture et le traîna non sans peine jusqu'à sa maison. Sans prêter grande attention au tapis ni aux meubles, il poursuivit son chemin jusqu'à l'étage où se trouvait le salon. Il redressa l'arbre, l'attacha à un socle, défit la corde et contempla, le souffle court, le pin fièrement dressé au milieu de la pièce. L'arbre rentrait exactement dans l'emplacement prévu. Pete dit à voix basse, « T'en as choisi un bon. » Il attendit ensuite le retour de Lana, qui passait l'après-midi chez des amis, en lançant un vieux film de Noël à la télévision. À son arrivée, ils décorèrent le sapin ensemble, partagés entre une fascination pour la beauté de l'arbre et l'amertume de ce qu'il avait coûté pour le voir ainsi. Lana alla se coucher un peu plus tôt cette nuit-là, emportée par la fatigue. Pete restait seul dans le salon, face au sapin. Il avait décidé de se récompenser avec un verre de whisky, confortablement assis dans le canapé. Il fixe l'arbre, légèrement décoré par quelques guirlandes à ampoules. Il lève son verre et dit « À la tienne, beauté ». Alors que la lumière chaleureuse lui offrait un réel sentiment de satisfaction, une lumière attira son attention sur l'arbre. Une ampoule scintillait, ou plutôt clignotait, de manière irrégulière. Elle devait être défectueuse. Ce détail l'agaça. Ce petit détail venait déranger la carte postale qu'il avait enfin réussi à se créer. Il termina son whisky d'un coup, s'approcha du sapin pour identifier la source du problème. Il y avait en fait deux ampoules défectueuses, deux clignotements irréguliers suffisants pour être notés. Plus il s'approchait, moins il arrivait à les distinguer. Les deux ampoules ne se trouvaient pas en surface, sur le bord des branches. Elles se situaient tout près du tronc. Il essaya de distinguer comment la guirlande avait pu aller jusque-là, mais fut surpris par la noirceur soudaine qui entourait le tronc. Il ne distinguait rien. Il avait beau se concentrer, l'obscurité semblait engloutir toute la lumière environnante. Il ne distinguait même plus les branches, et même les deux lumières défectueuses n'arrangeaient rien. D'ailleurs, les deux ampoules semblaient clignoter selon le même rythme, à la même allure. Son verre vide lui échappa des doigts et s'éclata au sol. Les lumières n'étaient pas dysfonctionnelles, au contraire. C'est le clignotement de deux yeux qui avait attiré son attention. Il se figea, sentit la pièce s'assombrir autour de lui. Quelque chose remua entre les branches, quelque chose vivait là. Il se sentait paralysé. Ses pieds comme englués au sol, alors que les yeux commençaient doucement à s'avancer vers lui. Entre grincements et craquements, un visage fit irruption entre les écorces, comme recraché par le bois. Un visage âgé, ancien, aux traits tordus par la rage. La terreur envahit Pete, son cœur s'emballa. Il battait de plus en plus rapidement, tandis que le visage se rapprochait du sien. Les yeux dépourvus de pupilles se remplissaient de jaune et le fixaient sans discontinuer. Quand Pete jeta un regard en bas, il aperçut deux longues et minces jambes semblables à des branches s'échappant du conifère. Dans un craquement sinistre, la chose sortit des branches, se redressa de toute sa hauteur macabre, juste devant l'arbre. Le salon était complètement plongé dans l'obscurité et aucune lumière extérieure ne venait l'éclairer. Pete était immobile, sans défense, et ne pouvait qu'observer la créature. Ce n'était pas un animal, il n'avait jamais rien vu de tel. Son cœur flancha, il sentit une intense douleur dans son bras gauche, s'agrippa la poitrine, mais ne parvint pas à bouger ses pieds. Il n'arrivait même plus à détourner son regard de celui du monstre. À mesure que le visage cadavérique se rapprochait du sien, la douleur augmentait. Il savait qu'il allait mourir. Il serait retrouvé comme Janet, froid, le visage déformé par la douleur et par la terreur. Il serait la seconde victime de ce qui vit dans les arbres de cette colline. La douleur devenait insoutenable et l'empêchait de crier. Les dernières braises du feu de cheminée projetaient une légère lumière sur la tête du monstre. Elle était effroyablement allongée, dominée par un large trou là où aurait dû se trouver une bouche et un nez. Chaque mouvement de la créature provoquait un craquement sonore. Elle se baissa, approchant son visage de celui de Pete, jusqu'à ce que le trou touche la bouche de Pete. Un ricanement involontaire retroussa ses lèvres et révéla ses dents, tordant son visage. Soudain, il entendit une autre voix en haut des escaliers. « Papa !» La créature détourna son attention de Pete. Dans un mouvement maladroit mais rapide, proche d'une marionnette, elle se dirigea vers la petite fille. Pete saisit l'occasion pour rattraper la hache de Janet à côté de sa cheminée. Il avait retrouvé l'usage de ses jambes. Il se jeta de toutes ses forces dans un unique coup dans le dos. La créature se retourna, mais au lieu d'une complainte, laissa s'échapper des cliquetis et des craquements. Au lieu d'un flot de sang, des insectes sortaient de sa plaie. Elle jeta Pete au sol et s'échappa par la porte d'entrée en la défonçant. Pete et Lana ne sont jamais retournés dans cette maison. Pete ne savait pas ce qu'était la créature, mais ce dont il était sûr, c'est que plus jamais il ne couperait d'arbres, parce que peu importe leur beauté, peu importe si elle nous rappelle Noël, on ne sait jamais vraiment ce qui vit dedans.
C'est une très belle fin et une très bonne morale.
C'est alors comme toujours dans les creepypasta, évidemment, elle n'est pas de moi. Elle est de Michael Whitehouse. Et je l'ai trouvé, j'ai téléchargé en fait une application qui crédite les auteurs pour les creepypasta quand elle le peut. Et donc celle-là est créditée au nom de Michael Whitehouse. Et je la trouvais... forcément, hein, des creepypastas, j'en lis de temps en temps. Et je trouvais la montée en tension plutôt bien conçue. Alors j'en ai quand même coupé un bon petit quart de l'histoire, parce qu'elle était encore bien plus longue que ça. Mais ouais, c'était une histoire, alors qu'il n'y a pas forcément les codes classiques de la creepypasta, qui est entre la légende urbaine et la creepypasta.
C'est vrai que dans la creepypasta, on a souvent l'usage de la première personne, notamment.
Ouais.
Dans les histoires que je vais raconter ce soir, forcément, il y aura beaucoup de premières personnes. Ouais, donc c'est ça qui m'a surpris au début. Je me suis dit, tiens, une creepypasta à la troisième personne, ça change.
Ah non, il y en a pas mal, hein. J'en ai trouvé plusieurs, mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a une évolution de la creepypasta qui part vers le récit internet ou le compte internet, enfin diffusé sur internet en tous les cas de manière plus globale.
Oui, il y a de moins en moins un rapport directement avec l'outil numérique. On est de plus en plus dans, ça se rapproche de plus en plus de la légende urbaine classique, on va dire, mais qui est partagée sur internet. Ouais. Est-ce que tu veux que je t'en raconte une à mon tour ?
Allez, c'est parti.
Le lutin sur l'étagère. Charles, est-ce que tu as déjà entendu parler de la tradition du Elf on the Shelf, le lutin sur l'étagère ?
Le nom me dit quelque chose. Elf on the Shelf ?
Ouais, Elf on the Shelf. Donc moi je le traduis par le lutin sur l'étagère, mais si c'est en anglais, c'est parce que la tradition n'est pas encore vraiment beaucoup implantée en France. En fait, c'est une tradition qui est née en 2004 aux États-Unis avec un livre qui s'appelle The Elf on the Shelf, justement, qui était de Carol Habersold et de sa fille Shonda Bell. Et donc l'histoire, en gros, c'est que chaque année, le Père Noël enverrait un elfe dans les foyers pour vérifier si les enfants ont été vilains ou gentils. Voilà, en reconnaissance. Donc il s'installe pendant toute la période de Noël, il observe les enfants pour voir s'ils ont été vilains ou gentils. Alors, ce livre est souvent assorti d'une espèce de peluche, pantin, figurine, quoi, en forme justement de lutin du Père Noël, que les parents vont placer dans la maison pendant la période de Noël. Et pour plus de réalisme, ils vont le faire changer de place ou de position dans la nuit pour donner l'impression que c'est un vrai lutin du Père Noël qui va tout rapporter au Père Noël la nuit et qui revient le matin. Donc, c'est un côté un petit peu amusant, mais c'est aussi un bon outil pour que les enfants se tiennent à carreau pendant les fêtes, puisque bah, s'ils font des bêtises, le lutin va tout dire au Père Noël. Et ça, c'est un petit peu le principe de la creepypasta que je vais te raconter maintenant.
D'accord, et s'ils sont passage, ils envoient le cran de puce ou pas du coup à la place?
Alors, écoute, je ne sais pas si ça rentre dans la même tradition, mais ce serait rigolo. En tout cas, il peut se passer des choses très, très flippantes quand on fait des bêtises. Et d'ailleurs, je vais faire un énorme avertissement avant de commencer cette histoire. Il est question de violence, notamment sur des enfants. Donc, si vous êtes sensible à ce genre de choses, je vous conseille de passer l'histoire, tout simplement. Parce que ça, voilà, c'est un petit peu sombre. On est en période de Noël, il y a des lumières colorées partout, mais cette fois-ci, ça va être un petit peu sombre. Le lutin sur l'étagère, donc. Mamie me rappelait toujours que le lutin sur l'étagère me surveillait pour être sûr que je n'étais pas un vilain garçon. En grandissant, même lorsque nous n'étions pas en période de Noël, le lutin m'observait. Le lutin me jugeait. Avec mon frère et mes cousins dans les parages tout le temps, ce n'était pas facile d'être un bon petit garçon. Mais j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Quand je faisais une erreur et que j'étais méchant avec eux, le lutin me regardait. Et je me souvenais de ce regard. Je l'imaginais attendre que je sois au lit, puis courir prévenir le Père Noël. Peu importe à quel point je criais ou je pleurais, le lutin ne me répondait pas. Il ne faisait que rester là, à attendre que je fasse à nouveau quelque chose de mal. Il me connaissait trop bien. Le 14 juillet, j'ai brûlé Manon avec un feu d'artifice. Je n'ai pas fait exprès. Je voulais juste voir ce qui allait se passer. Malheureusement, elle a eu une blessure plutôt grave. Mamie a dû l'emmener à l'hôpital. Mais avant, elle a sorti une ceinture et m'a fouetté jusqu'à ce que je ne puisse plus m'asseoir. Après que la mère de Marissa soit venue me cogner à son tour, on m'a dit de garder Nicolas, mon petit frère. Mamie était encore à l'hôpital. Nicolas regardait la télé pendant que je marchais pour soulager la douleur. Avant que papa meure, c'est ce qu'il me disait de faire. Je marchais beaucoup. Une fois arrivé dans le salon, j'ai vu le lutin qui me regardait. Il savait. Sa bouche en bois était ouverte, comme s'il me criait dessus. Tu es un vilain petit garçon. Personne ne t'aime. Le Père Noël sait que tu es mauvais. Tu seras une horrible personne quand tu grandiras. Il ne parlait pas vraiment, bien sûr, mais c'était évidemment ce qu'il pensait. C'était exactement ce que me disait mamie jour après jour. Mais elle avait raison. J'avais beau essayer, je n'arrivais pas à être un bon garçon. À 8 ans, j'étais déjà pourri jusqu'à l'os. Mois après mois, mes efforts ne payaient pas. Quand je ne brisais pas un vase dans la cuisine, je laissais des traces de boue dans l'entrée. À chaque fois, je me retrouvais avec le pantalon au genou et j'essayais de ne pas crier quand la vieille ceinture de mon papy me frappait. Si je criais, les coups pleuvaient plus longtemps. Quand tout ça s'arrêtait et que je remettais mon pantalon, je me disais qu'il fallait que je sois un meilleur garçon, que j'en serais à partir de maintenant. Et pendant un moment, tout le mois de novembre jusqu'à décembre, je l'ai été. Mamie, Nicolas et moi avons fait le sapin de Noël le 4 décembre. Nous l'avons décoré pendant que les sablés cuisaient dans le four. Mamie, avec ses bras solides et puissants, m'a soulevé pour que je mette l'étoile au-dessus du sapin. Cette étoile était celle de sa fille, ma mère. C'était une des dernières choses qui lui avait appartenu. Le 5 décembre, Nicolas et moi étions rentrés de l'école et nous étions en train de jouer dans le salon, de jouer un peu brusquement, comme le font deux frères. Il avait 6 ans, moi 8, et j'étais un peu plus costaud que lui. Nous étions en train de nous battre quand j'ai fait une bêtise. Je l'ai poussé droit sur le sapin de Noël. Le sapin est tombé, les décorations se sont cassées, la guirlande lumineuse s'est éteinte et l'étoile s'est brisée. À cet instant, j'ai paniqué. Je savais que Nicolas allait tout dire à mamie. Je savais que le lutin dans la chambre allait la prendre. J'avais tellement été un bon garçon que j'avais recommencé à espérer que j'aurais des cadeaux de Noël. Mais après ça, après avoir brisé la seule chose que mamie avait encore de sa fille, c'était foutu. Mamie allait me battre comme jamais. Le lutin allait tout dire au Père Noël. Je n'aurais rien. Et Nicolas allait me narguer avec ses cadeaux. Mais d'un coup, je me suis dit une chose. Et si le lutin n'a pas vu ce qui s'est passé? Et si Nicolas ne disait rien à mamie? J'ai été très occupé pendant environ 1 heure. Mamie allait rentrer du travail d'une minute à l'autre. Je savais que je ne la tromperais pas, mais je pouvais tromper le lutin. C'était ça le plus important. C'était lui qui parlait au Père Noël, pas mamie. Je portais le visage de Nicolas quand je me suis présenté devant le lutin sur l'étagère. Il m'a regardé avec ses yeux noirs pleins de jugement. « Je suis désolé d'avoir fait tomber le sapin et casser les décorations. » J'ai dit ça en faisant ma meilleure imitation de la voix de Nicolas. Je pensais à son corps qui dégoulinait de sang sur le sol de la cuisine. Peut-être que mamie finirait par croire qu'il était tombé sur un couteau si je pleurais assez fort. Sous le visage de mon frère qui me servait de masque, j'observais le lutin. Je me demandais s'il me croyait. « Je suis désolé, lutin, » ai-je dit à nouveau. J'ai entendu la porte du garage se lever et une voiture qui se garait. Mamie était de retour. J'ai eu un coup de panique. À travers le masque de peau froid, je suppliais du regard le lutin. La porte de la cuisine s'est ouverte et j'ai entendu le hurlement de mamie. « Lutin !» ai-je murmuré, alors que mes larmes se mêlaient au sang de mon frère qui dégoulinait sur mon visage. Le lutin a alors tourné sa tête à 360 degrés. Lorsqu'il m'a regardé à nouveau, il avait la bouche grande ouverte, et il a lancé « Tu as été un très vilain garçon, Nicolas !» Je suis tombé à genoux, plein de soulagement. J'ai vaguement entendu mamie continuer à hurler, de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'elle arrive dans la pièce. Le lutin a de nouveau parlé. « Tu as été vilain, Nicolas !» Mamie s'est ruée vers moi. Je n'ai pas bougé. Pour ne pas que le lutin me démasque, j'ai gardé le visage de mon frère jusqu'à ce que je sois dans la cuisine. Mamie n'a pas essayé de me frapper. Elle ne m'a même pas touché. J'ai remis la peau sur la tête de Nicolas et j'ai dit à mamie qu'il était tombé. Elle ne m'a pas répondu. Mais cela n'avait pas d'importance. 20 jours plus tard, je suis ici, dans cette jolie chambre d'hôpital, et j'ai de jolis cadeaux de Noël. Les médecins et les infirmières sont très gentils avec moi. Une d'entre elles m'a fait même un câlin après l'ouverture des cadeaux. Les cadeaux n'étaient pas exactement ce que je voulais, mais c'était mieux que rien. C'était beaucoup mieux. J'ai ri pendant que l'infirmière me faisait un câlin. Quand elle m'a demandé ce qui me faisait rire, j'ai menti et je lui ai répondu que je m'étais juste souvenu d'une drôle de blague. Elle a souri, et j'ai été surpris de voir une larme couler sur sa joue. Mais je n'y ai pas prêté trop attention. Tout ce qui comptait, c'est que j'avais gagné. J'avais réussi à tromper le lutin sur l'étagère. Alors comment ça va, Charles?
Écoute, c'est comme il faut en faire beaucoup pour tromper le lutin, j'ai l'impression.
Ouais, beaucoup beaucoup. Et puis là, il est un peu bête ce lutin, mais bon.
Oui, il fait très très mal. Il y a des petits problèmes de vue, j'ai l'impression.
Je t'avoue que quand j'ai commencé à la lire, donc c'est une histoire d'un auteur qui s'appelle Max Lobdell, qui a cartonné sur le No Sleep de Reddit. Puis c'est bien normal puisque Mark Lobdell, c'est un excellent auteur. Il a un blog qui s'appelle Unsettling Stories, sur lequel il raconte des histoires comme ça.
Ah, donc ça fait partie des creepypasta qui circulent comme ça de manière anonyme, mais qui viennent d'auteurs...
Non, voilà, c'est un petit peu comme Candle Cove, où on sait qu'il a écrit tout ça. J'ai voulu faire attention, justement, dans les histoires que je raconte ce soir, à ce qu'on sache qui les a écrites, tout ça, qu'on ait un petit peu de background sur eux. Donc là, Max Lobdell a écrit cette histoire-là. Donc moi, je la lisais tranquillement, et je t'avoue qu'à partir du moment où j'ai vu... Je portais le visage de mon frère quand je suis allé.
Ça arrive un peu comme ça, ça arrive...
Il y a une rupture.
Ah, j'étais occupé pendant la dernière heure. Ouh.
Ouh là là. Et j'étais... Qu'est-ce que je viens de lire? J'ai relu le truc, j'étais vraiment... Donc ouais, non, toute la montée sur le côté, sur cet enfant qui sombre dans l'horreur petit à petit est vraiment flippante. Ça donne pas envie d'avoir un lutin sur l'étagère.
Ou ni d'avoir des enfants.
Ni d'avoir des enfants. Bon là, c'est surtout une énorme charge contre les violences faites aux enfants, quoi.
Ouais.
Très violent. Sur les stagiaires, je te disais au début, moi, il y a des gens qui trouvent ça mignon, qui trouvent ça sympa, le conte de Noël, machin. Moi, je trouve ça plutôt angoissant et très culpabilisant pour un enfant. Et je sais pas si, enfin, tu regarderas, et j'incite les auditeurs et auditrices à aller regarder à quoi ressemble l'Elf on the Shelf. Moi, je le trouve super chelou. Et je pense qu'il y a moyen d'en faire un film d'horreur, vraiment, quoi. Il y a un gros potentiel de flip avec ces petites poupées, quoi.
Mais je trouve qu'il y a beaucoup de creepypasta qui mériterait une adaptation, soit en court-métrage, soit... C'est marrant, j'avais parlé pendant l'inspiré de fait réel bonus d'Halloween de Crypt TV. Sur YouTube. Et en fait, j'imagine très bien les creepypasta comme ça se voir adapter, servir de petits scripts à des histoires de quelques minutes comme ça. Et ça marcherait très bien.
Ah, sur celle-là, en tout cas, oui, ça pourrait bien marcher. Enfin, visuellement, elle serait un petit peu atroce, mais oui. Donc voilà, je voulais parler de cette tradition qu'on connaît peu en France, du Elf on the Shelf, donc qui n'implique pas que des enfants tuent leur petit frère régulièrement, qui est juste une tradition que je trouve un petit peu bizarre.
Voilà. Je vais te raconter une histoire maintenant, mais celle-là, elle tient plus du nanar.
Ah, j'ai hâte d'entendre ça.
Première neige. Dans la très animée ville de Cherry Shrub, la neige tombait toujours quand les habitants dormaient. Et cette nuit-là, la ville avait revêti son plus beau manteau blanc. Le lendemain matin, un jeune garçon du nom de Alex Schroeder se réveilla avec une expression émerveillée. Il venait de regarder par la fenêtre et avait vu son jardin couvert d'une neige épaisse. Sans plus attendre, il descendit les escaliers en courant, prit sa veste la plus chaude, son bonnet, ses gants et passa à la porte d'entrée. « Fais gaffe à ne pas attraper froid !» lui lança sa mère. « C'est bon, maman, t'inquiète pas !» Il regardait ses empreintes laissées derrière dans la neige encore molle et se dirigea vers la boîte aux lettres. Il récupéra la neige qui se trouvait dessus pour faire sa première boule. Il la fit rouler au sol, la fit grandir, grandir, encore grandir, jusqu'à obtenir satisfaction. Il roula une deuxième boule, plus petite, puis une troisième, encore plus petite, et les empila les unes sur les autres. Il retourna dans la maison pour prendre deux boutons et une écharpe, cassa une grosse branche en deux pour les bras, une plus petite pour le nez, et admira sa création. Un grand bonhomme de neige. Il le regardait sans s'arrêter. C'était la première fois qu'il en faisait un plus grand que lui. Il lui dessina un trait plat en guise de bouche, détourna son attention pour se constituer un stock de boules de neige, mais lorsqu'il regarda sa création à nouveau, son expression avait changé. Le bonhomme de neige arborait un large sourire. Interloqué, Alex le regardait fixement. Au bout de quelques minutes, il décela un mouvement sur son visage. Le bonhomme de neige semblait le regarder en retour. « Est-ce que tu es vivant ?» demanda Alex. « Oui. C'est la première fois en un siècle que cette ville est bénie d'un don de magie. » Alex était impressionné. Il retourna dans la maison et demanda à sa mère de le suivre. Arrivé devant le bonhomme de neige, celui-ci ne bougeait plus. Il était redevenu un objet sans vie, inanimé et froid. Sa mère le complimenta et retourna dans la maison.
« Pourquoi t'as fait ça ?»«
Alex, elle n'y croirait pas. Tout le monde te croira bientôt, mais tu vas devoir m'aider. » Le bonhomme de neige préleva un peu de neige sur lui et commença à modeler une boule. En quelques minutes, un autre bonhomme de neige se tenait droit et se mit à bouger. Alex n'en croyait pas ses yeux.
« Aide-moi, reste pas planté là !» lui ordonna sa création.
Alex s'accroupit dans la neige et se mit lui aussi à construire un autre bonhomme de neige. En moins de 20 minutes, une dizaine de bonhommes de neige le regardaient fixement. Le premier, sa création, passa tour à tour devant chacun d'eux, leur insufflant la vie. Tous se mirent à cligner des yeux et se dirigèrent vers les autres maisons du quartier. Alex était aux anges. Il alla chercher son traîneau et commença à jouer avec quelques-unes des copies. Alors qu'il glissait en rigolant, il observait le bonhomme de neige original discutant avec une des copies, justement. Mais quelque chose n'allait pas là-dedans. La copie avait une apparence plus charnue qu'au début. En s'approchant, il sentit une odeur nauséabonde s'échapper du tas de neige. Il s'interposa, interrompit les deux bonhommes de neige dans leur discussion, et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Logé dans la poitrine du clone, se trouvait le chien du voisin. Le molosse semblait endormi, mais avait les yeux encore grands ouverts. Comme si sa vie s'échappait de lui, comme si elle était absorbée par le bonhomme de neige. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Sa création se tourna vers lui et le fixa de ses yeux sans âme. « C'est la célébration dont je t'ai parlé, Alex. » Il regarda une autre copie fondre pour se glisser sous la porte de son voisin. Quelques secondes plus tard, des cris de terreur jaillirent de la maison. Alex regarda autour de lui. Plusieurs familles du quartier tentaient de s'échapper de leur domicile, alors que les bonhommes de neige fusionnaient avec leur peau et leurs organes. Certains devenaient de véritables abominations. Des vaisseaux sanguins semblaient désormais tenir la neige en place. Certains avaient des tripes, d'autres des têtes sortant de leur poitrine. « Nous sommes nombreux, nous avons voyagé de monde en monde, avec pour seul but l'assimilation. » Toutes les copies se rassemblèrent autour d'Alex. Il eut à peine le temps de voir sa mère se faire emporter hors de sa maison. Alex tenta de la rejoindre, mais fut empêché. Il donna des coups de poing, des coups de pied pour se frayer un chemin, et parvint, enfin, à en frapper un au visage. Mais au moment de renouveler son attaque, il fut bloqué net et assommé par son assaillant. Ils le saisirent, l'immobilisèrent. Des fragments de glace s'infiltraient sous sa peau. « Toute résistance est inutile, Alex. Deviens l'un d'entre nous. » Thank you.
Alors celle-là, je l'aime bien. J'ai beaucoup d'affection pour cette histoire.
C'est les bonhommes de
Donc je...
neige from Outer Space, en fait.
C'est exactement ça. C'est en la lisant, quand je l'ai lu, j'imaginais... C'est bon, comme toutes les creepypastas, c'est extrêmement visuel, c'est plein de petites descriptions, de choses comme ça. Je voyais le nanar que ça pouvait donner. Et en fait, ça fait partie des... Comme je disais tout à l'heure pour une précédente histoire, ça fait partie des histoires que je veux voir adaptées, mais celle-là, pas forcément pour les mêmes raisons. Et ça m'a fait penser à Jack Frost
Bah
aussi.
exactement, dès qu'on commence à parler de Bonhomme de Neige Tueur, on a forcément envie de parler de Jack Frost, cet excellent film qu'on vous conseille pour les fêtes de Noël, qui est, bah, j'allais dire un nanar assumé, mais on peut même quasiment parler de comédie horrifique à ce niveau-là, parce que c'est
Mais c'est une
complètement
comédie,
volontaire.
ouais.
Donc ouais, l'histoire de Jack Frost, pour vous la faire vite fait, donc c'est un tueur à la base, hein, c'est un tueur en série.
C'est un tueur, c'est ça, qui est en route pour la chaise électrique. Il est dans un fourgon de police, il est en route pour la chaise
Quand
électrique.
soudain, un accident avec un camion qui transporte des produits toxiques le fait qu'il va se mêler à la neige et
Les
devenir
produits toxiques, ouais,
un
c'est ça.
bonhomme de neige tueur.
C'est-à-dire qu'il tombe dans la neige, le méchant tombe dans la neige, des produits toxiques mêlent son ADN à la neige dans une animation à la main, dirons-nous.
Si on peut dire ça comme ça.
Après un magnifique plan machine à laver,
Ah oui, parce que
puisque
le.
le camion, quand le camion tourne, évidemment, c'est une caméra qui tourne. Et à la suite de quoi, ouais, le bonhomme de neige, enfin le tueur devient un bonhomme de neige tueur et agresse les habitants de la ville dont le shérif l'avait fait emprisonner.
Avec des punchlines magnifiques tout au long du film. On va pas trop spoiler si vous l'avez jamais
Non,
vu,
oui, il faut pas
mais
spoiler, ouais.
regardez Jack Frost en VF de préférence, et vous allez passer un excellent moment. Alors moi, je vais maintenant passer à la dernière histoire de ce soir, de ce spécial Creepypasta de Noël. Je ne saurais que vous conseiller, chers auditeurs, chères auditrices, d'aller vous faire un petit thé avant, parce qu'on est parti sur une histoire plutôt longue, une histoire qui se passe pendant les fêtes de Noël, mais pas forcément dans la neige, comme vous allez le voir tout de suite. Les meurtres de la cité radieuse. J'ai toujours été fasciné par les tueurs en série. Depuis tout petit, je suis à la fois intrigué et terrifié par les psychopathes comme Landru, Fourniret ou Guy Georges. Et mon intérêt pour le sujet n'a fait qu'augmenter en grandissant. Je viens de Sevran. Dans ces grandes cités HLM, j'ai vécu au plus près du crime. J'ai vu les bandes, la drogue, la violence. Ma vie était loin d'être parfaite. Il n'y avait que ma pauvre mère pour essayer de me protéger. Et arrivé à 13 ans, j'étais amer, en colère. Je n'avais pas envie de me laisser bercer par des histoires gnorgnons à la con. J'avais besoin de choses plus sombres, plus réalistes. Alors à partir de là, les serial killers sont devenus ma passion. À cette époque-là, maman se battait, travaillait dur. Elle était veuve, immigrée, et la vie ne lui avait pas fait de cadeau. Mais elle avait fini par réussir. Maintenant, il fallait que je me débrouille pour que ses efforts n'aient pas été vains. Je m'appelle Emilien Tran et en ce mois de décembre 2018, j'étais sur le point de devenir la première personne de ma famille à obtenir un diplôme. Plus qu'un semestre à la Sorbonne et j'en aurais terminé. Une fois les études finies, j'allais devenir écrivain. Et comme vous vous en doutez, ma spécialité allait être les faits divers sanglants. Mon premier projet était déjà bien avancé, un livre sur les maisons des tueurs en série en France. À l'approche des vacances de Noël, avec ma petite amie Anna, nous avions visité une douzaine de ces maisons dans plusieurs régions. Mais cette fois, nous voulions aller plus à l'est, presque à la frontière allemande. Direction Briey, au cœur de la Meurthe-et-Moselle. Si le taux de criminalité est loin d'être un des plus élevés en France, cette petite ville entourée par la forêt abrite un ensemble de bâtiments à la sombre histoire. La cité radieuse. Si l'on connaît surtout celle de Marseille, Le Corbusier a conçu d'autres cités radieuses qui ont plus ou moins tenu à travers le temps. Celle de Briey, ouverte en 61, n'a pas connu un beau destin. On l'appelle même la cité maudite. Elle a peu à peu été désertée au début des années 80, laissant sur place quelques dizaines de familles pauvres et Jacques Garnier. Un violeur, un meurtrier, un dépeceur. L'écorcheur de Briey, comme l'avait surnommé la presse. Garnier avait 35 ans quand la police est venue l'arrêter en 84. Lorsque les flics sont entrés dans l'appartement 325, ils ont trouvé des restes de toutes ces victimes. Des douzaines de traces ont été retrouvées. Pas de cadavres, mais des morceaux de chair, des os et des organes. Tous les morceaux avaient été incorporés dans la décoration de l'appartement. Ils étaient cousus dans les meubles, sur les murs. Il y avait même un guéridon couvert de cuir humain. Tel un architecte d'intérieur complètement fou, Garnier avait utilisé ses victimes pour refaire la déco. Avec son fidèle couteau effilé, il avait fait un travail fascinant, d'une précision incroyable. C'était l'appartement le plus propre de toute la cité radieuse. Tout était impeccable, à l'exception des quelques gouttes qui perlaient parfois des murs repeints au sang. Jacques Garnier aimait s'en prendre aux enfants. Installé à l'extrémité de la cité, il attendait l'aube pour capturer les écoliers qui marchaient seuls vers l'arrêt de bus. Parfois, il s'attaquait aussi aux adultes qui s'approchaient d'un peu trop près de l'appartement 325. Même un couple du 324 juste à côté y est passé. De ce que j'ai lu, la police a été vivement critiquée pour ne pas avoir fait son maximum dans cette enquête. Un classique dans ces zones rurales et populaires. Heureusement, Garnier a fini par être arrêté et condamné à la prison à perpétuité. À ce jour, il pourrit toujours derrière les barreaux. Le 20 décembre, Anna et moi avons pris la route. J'ai promis à ma mère que nous serions de retour pour le réveillon de Noël au plus tard. Après tout, je ne pouvais pas ne pas passer les fêtes avec ma mère. Il y en avait pour environ 4 heures de route. Comme d'habitude, Anna et moi on s'éclatait. Elle considérait cette sortie comme un cadeau de Noël et je ne pouvais pas rêver mieux. Anna et moi on formait un couple plutôt mignon. On était assez hipster avec nos coupes courtes, nos lunettes et nos fringues de friperie. On s'était liés autour de notre passion pour Edgar Allan Poe. Deux geeks un peu dark, considérés comme bizarres pour une bonne partie de la fac. Mais on n'avait pas besoin des autres. On était bien ensemble. On regardait des films d'horreur et on partageait la passion des serial killers. Il était 16h quand nous sommes arrivés près de la cité. Nous avions passé Rombas, Rosslange, Moyeuvre, tous ces petits patelins où scintillaient quelques décorations de Noël. Les rares vitrines du magasin étaient couvertes de fausses neiges et de flocons en plastique brillant. Un vrai décor de petite ville de téléfilms de Noël. Un peu plus loin, sur la route, les bâtiments se sont faits plus rares et ont laissé place à la forêt et ses grands arbres. À mesure que nous nous approchions de la cité radieuse, la lumière disparaissait entre les troncs épais et un sentiment d'isolement montait en nous. La cité radieuse est alors apparue. Personne ne semblait y avoir vécu depuis des décennies et franchement, ça se comprend. Peu de gens veulent vivre à côté de l'appartement d'un tueur en série. Nous sommes garés devant l'immeuble. En sortant de la voiture, j'ai senti la puissance du vent, aussi tranchant que le couteau de Jacques Garnier. J'ai remonté mon écharpe et enfoncé un peu plus mon bonnet. Nous sommes vite entrés dans le hall du bâtiment où régnait une atmosphère tout aussi glaciale. Les boîtes aux lettres chancelantes, la poussière qui flottait dans l'air, les portes défoncées. On se serait cru dans une vidéo d'Urbex ou de Chasseurs de fantômes. C'est excitant, s'est exclamée Anna. J'ai serré sa main comme un enfant qui s'accroche à celle de ses parents avant d'entrer dans une maison hantée. Avec un peu de malice macabre, je lui ai glissé. Je suis quasiment sûr qu'ils n'ont pas tout nettoyé. Anna m'a cogné l'épaule. C'est horrible, Emilien, arrête. Aussi impatients que nous étions, ce bâtiment en ruine restait angoissant. Particulièrement à cette heure où le soleil commençait doucement à se coucher. Nous sommes montés au troisième étage. La porte de l'appartement 324 était grande ouverte, laissant entrevoir un salon totalement vide. Nous avons avancé jusqu'au 325. Sa lourde porte noire était fermée. Ensemble, nous avons attrapé la poignée et poussé en espérant qu'elle n'ait pas été verrouillée. Elle ne l'était pas. Au milieu de la pièce se trouvait un vieux canapé en lambeaux. Quelques plaids usés prenaient la poussière. Une grosse télé à tube cathodique lui faisait face. Et à côté, un guéridon. Il n'y avait aucune peau humaine dessus, bien sûr. Juste à côté de nous, à l'entrée, il y avait une cuisine minuscule avec à peine la place pour un four et un frigo. Même pas la place pour une table. Je m'attendais à une température glaciale, mais il faisait chaud dans cette pièce. Assez chaud, comme si des squatteurs avaient allumé un brasero dans l'appartement. Malgré la chaleur, j'avais des frissons. J'imaginais Garnier ici, en train d'écorcher ses victimes nuit après nuit et d'étaler leur chair sur les murs. Mon regard a été attiré par des cadres accrochés sur ces murs sombres. Dans l'un d'entre eux, il y avait une photo. Deux femmes, qui devaient avoir la trentaine, habillées comme des punks avec des tas de piercings. Une grande blonde, maigre, aux yeux verts, et une petite brune aux cheveux courts. « Qui c'est, à ton avis ?» m'a demandé Anna. « Peut-être les dernières locataires. » Derrière la pièce principale, il y avait un couloir sombre et étroit, au bout une porte. Et lorsque nous avons essayé de l'ouvrir, nous avons découvert avec surprise qu'elle était fermée à clé. On s'est demandé pourquoi c'était verrouillé. Clairement, c'était bizarre. La nuit commençait à tomber. L'obscurité gagnait peu à peu l'appartement, qui n'avait manifestement plus d'électricité depuis des lustres. Mais nous ne prêtions pas attention. Nous étions trop occupés à essayer de forcer la porte de ce qui était sans doute l'ancienne chambre du tueur. Et soudain, nous avons sursauté. Il y avait du bruit dans le couloir. Des voix de femmes, à l'évidence alcoolisées. Des rires de hyènes qui s'approchaient. Nous étions recroquevillés dans l'ombre du couloir lorsque la porte de l'appartement 325 s'est ouverte. Je serrai la main d'Anna, paniquée. Le couple a poussé la porte et appuyé sur l'interrupteur. Les néons crasseux de la cuisine se sont allumés, dévoilant les deux femmes sur la photo. La blonde, la brune, les mêmes vêtements déchirés, le même air mauvais. La brune portait des grands sacs de courses qui avaient l'air d'être pleins à craquer. La blonde, toujours morte de rire, s'est approchée de la cuisine. J'étais complètement paniqué. J'ai murmuré à Anna, putain, qu'est-ce qu'on fait ? Anna m'a regardé avec un air désolé, est sortie de l'ombre, et s'est dirigée vers les deux femmes. Et je l'ai suivie, j'allais pas laisser ma copine toute seule. Surprise, la brune nous a salués avec un sourire amusé, tout en plaçant ses sacs de course sur la table. La situation était gênante. Désolé, on est vraiment désolé, a lancé Anna. On pensait que plus personne n'habitait ici. Une Königsbier à la main, la blonde s'est tournée vers la brune avec un sourire narquois. Toi, t'as encore oublié de fermer la clé. Regarde, on a de la visite maintenant. La brune a ouvert une canette. Elle nous observait avec sympathie. On est désolé, a répété Anna. On aurait dû se rendre compte que cet appartement était habité vu la chaleur. Putain, t'as laissé le chauffage allumé en partant ? A lancé la brune à sa copine. Eh, fais pas chier, c'est toi qui as oublié de fermer, lui a répondu l'autre. Anna, gênée, a repris son explication. Elle leur a dit qu'on était là parce qu'on savait que c'était là où avaient vécu l'écorcheur de Brier. Les yeux de la blonde se sont alors illuminés. Ah, vous voulez parler de Jacques Garnier ? Oui, c'était son appartement. C'est pour ça que vous êtes ici ? Je lui ai expliqué mon projet de livre sur les maisons de serial killers. Elle m'a dit qu'elle trouvait ça trop cool. Le fait qu'elle soit aussi enthousiaste m'avait mis un petit peu plus à l'aise. Je lui ai alors fait part de mon étonnement. Franchement, j'étais plutôt surpris que personne d'autre que nous ne soit venu les déranger en essayant de trouver l'appartement d'un serial killer aussi célèbre. Anna m'a interrompu. « Bon, on va pas vous déranger plus longtemps ? Encore une fois, désolé d'être entré chez vous. » Nous sommes dirigés vers la porte d'entrée, mais la blonde nous a brusquement barré le chemin. « Et attendez, comment est-ce que je peux savoir que vous ne nous avez rien piqué ?» Sa copine lui a pris le bras et a commencé à lui dire de nous laisser passer. Mais la blonde était vraiment furieuse. La brune a essayé de la calmer. « Chérie, t'as verrouillé la porte de la chambre, tu te souviens ?» La blonde s'est radoucie. Anna et moi étions paniqués, tétanisés. Le couple s'est écarté de l'entrée. « J'espère que vous ferez pas de conneries ici, nous a lancé la blonde. Allez-y. Et la prochaine fois, quand vous vous pointerez quelque part, pensez à vérifier si c'est chez quelqu'un avant d'entrer. » Anna et moi avons acquiescé et répété pour la 40e fois à quel point nous étions désolés. La brune nous a alors regardé. « Pas de souci. Mais sérieusement, vous devriez faire plus attention. Vous pourriez tomber sur de vrais tarés en faisant ces petites explorations. » Nous sommes ressortis dans le froid glacial. En silence, nous avons marché en direction de ma voiture. « La prochaine fois, je me renseignerai un peu plus. » Je lançais à Anna, tandis que mes yeux dérivaient machinalement vers les fenêtres de l'appartement 325. Je me suis arrêté net, comme pétrifié. Anna me demandait ce qui me prenait, mais aucun son ne sortait de ma bouche. J'étais absorbé par la fenêtre du 325. À travers les vitres, je voyais le couple vider ses sacs de courses sur le canapé. Comme si elles ouvraient des cadeaux de Noël. Mais des cadeaux pleins d'hémoglobine. Des morceaux de chair, des tripes, des organes qui luisaient sous les lumières bon marché. Les deux femmes avaient l'air excitées, au comble du bonheur. J'ai senti la main d'Anna me serrer le bras. Le couple nous regardait à présent. Des regards froids comme la mort, perçants comme le couteau de Garnier, qui contrastaient avec leur grand sourire carnassier. Anna s'est mise à serrer plus fort et m'a hurlé de bouger. C'était le déclic dont j'avais besoin. C'est à ce moment-là que les lumières des autres appartements de la cité radieuse se sont allumées. Partout, à travers les fenêtres, je voyais des hommes et des femmes avec le même regard, le même sourire, les mêmes grands couteaux dans les mains. À celle du 324, je pouvais voir un couple de quinquagénaires nus en train de s'asperger joyeusement de sang. Le tapis était presque entièrement rouge, comme s'ils s'étaient amusés à faire des anges en remplaçant la neige fraîche par des litres de sang. Au 223, une famille accrochait des intestins à son sapin, comme une guirlande de Noël poisseuse. Au 126, une vieille dame enveloppait une jambe coupée de papier cadeau coloré. Toutes ces scènes horribles se sont arrêtées brusquement, et une centaine de regards se sont pointés dans notre direction. Nous avons entendu toutes les portes des appartements s'ouvrir d'un coup, et nous nous sommes mis à courir le plus rapidement possible vers la voiture. À chaque pas, nous entendions un peu plus fort le grondement provenant de la cage d'escalier. Je me suis retourné. Toute la cité radieuse était à nos trousses, leurs couteaux effilés brillants sous la lune. Ils étaient seulement à quelques dizaines de mètres. Nous avons claqué les portières et démarré en trombe la vieille Clio en jetant des regards terrifiés dans le rétroviseur. Les habitants de la cité radieuse nous ont suivis jusqu'à la lisière de la forêt, avant d'abandonner petit à petit le long de la route départementale. Une fois à bonne distance, nous nous sommes arrêtés dans une station-service. Anna a appelé la police et leur a tout raconté. À l'autre bout du fil, l'agent essayait de la calmer, mais il a fait tout le contraire. Il lui a assuré que notre histoire n'avait aucun sens. La cité radieuse était d'après lui abandonnée depuis le début des années 90. La police nous a tout de même dit qu'elle enverrait quelqu'un, mais pas question pour nous de rester dans le coin. Nous avons repris la route, en écoutant de la musique de Noël plutôt que des podcasts de faits divers. J'imagine qu'échapper de justesse à l'attaque d'un immeuble de meurtrier rend un peu sentimental. Anna et moi avions survécu, et nous serions à la maison pour Noël.
Ah, t'as un truc avec les enfants, non ?
Pourquoi il n'y a pas tant d'enfants que ça dans cette histoire?
C'est un meurtrier d'enfants au début.
Oui, ouais, principalement. Ouais. Alors là, j'y suis pour rien en l'occurrence. C'est une des choses que j'ai gardées de la version originale. Car oui, c'est.
Tu l'as adapté.
Voilà, je l'ai adapté. Je l'ai adapté en France. L'histoire originale s'appelle The Sunnyside Murders. C'est une creepypasta de Ronnie Fordham qu'il a postée sur Reddit et qui a été sélectionnée par le site creepypasta.com. Mmh. Donc, qui est un site qui va souvent chercher les meilleurs creepypastas qu'il trouve sur des réseaux sociaux et sur Reddit et qui les met en ligne. Donc, c'est un monsieur qui a quand même eu 5 autres creepypastas qui ont été sélectionnés par le site. Donc, ouais, c'est un auteur plutôt prolifique et assez talentueux. Et ce que j'aimais bien chez The Sunnyside Murders, c'est que voilà, elle a ce côté un petit peu flippant de, avec ce twist final de « Mais attendez, personne ne vit ici depuis les années 90 ». Donc, sont des fantômes, sont des squatteurs qui ont été possédés par l'esprit des lieux. Donc là, il y a plusieurs... La fin est ouverte. C'est quelque chose que j'aime bien avec ça. Et encore une fois, tu vois, il y a moyen de faire un film avec ça. Donc non, j'ai bien aimé cette histoire. Alors, je l'ai adaptée en France. Puisque ça se passait dans une banlieue américaine, genre Chicago, un truc comme ça. Sauf que bah, pour moi, c'était pas très concernant, peut-être pour des auditeurs français. Donc je l'ai placé à Briey, qui est un lieu assez inquiétant sur le papier, puisque bah, c'est en pleine forêt, une des cités radieuses du Corbusier qui a été abandonnée. Et elle a bien été surnommée La Maudite, hein, parce que justement, elle avait été abandonnée en 83, et elle a failli être détruite. Alors en fait, ce qui s'est passé en revanche, c'est qu'elle a été réhabilitée à partir du milieu des années 80, puisque bah, quand même, c'est un bâtiment magnifique, il a été classé depuis. Et même les façades colorées d'origine ont été restaurées aujourd'hui, donc aujourd'hui, la cité radieuse de Briey n'est pas abandonnée, il n'y a pas de serial killer qui se balade là-bas. C'était très joli d'ailleurs, ce que c'est devenu. Donc voilà, j'ai voulu placer cette histoire en France en me disant que ça serait un petit peu plus concernant, voilà. Glissant une vieille Clio à la place d'une vieille bagnole américaine.
J'ai remarqué.
Donc voilà, je ne sais pas si cette histoire t'a plu.
Eh ben oui, si, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé le côté se retrouver dans l'espèce de cour intérieure devant cette cité radieuse et avoir toutes les fenêtres qui s'allument d'un coup et tout le monde qui te regarde comme une seule personne. Enfin, au final, comme si tout le monde était connecté et savait tout ce qui se passait en même temps, quoi. Cet épisode spécial Creepypasta, spécial histoires effrayantes, touche à sa fin, mais d'abord, une petite reco, je vais me permettre de garder la parole, parce que j'ai attaqué, il n'y a pas si longtemps que ça, The Twilight Zone, la série, alors pas la série de cette année, la saison de cette année de Jordan Peele, mais la série originale de 1959. En fait, j'avais regardé quelques épisodes. Déjà, je savais ce qu'était Twilight Zone, j'avais déjà vu plusieurs épisodes, mais j'avais jamais pris la série comme un tout en me disant « je vais regarder l'intégralité des 156 épisodes dans l'ordre chronologique ». J'avais jamais fait ça. Et par le concours d'un coffret DVD à bas prix, je me suis pris les saisons de Twilight Zone et j'ai attaqué. Et je me suis dit, en regardant, je me suis dit « waouh, mais en fait, toutes ces creepypastas, toutes ces histoires à twist ». Elles sont quand même déjà un petit peu dans la quatrième dimension, hein, parce que c'est son nom français, la quatrième dimension. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors, c'est une série de 1959 qui a duré jusqu'en 1964, il y a 5 saisons. C'est Rod Serling qui l'a créé. Il a écrit 92 épisodes sur les 156, ce qui est vraiment impressionnant. Enfin, ce qui, à mon avis, est aussi quand même un peu une performance, parce qu'il faut trouver 92 histoires. Certaines sont adaptées de nouvelles, évidemment. Mais il faut trouver les twists, il faut trouver comment les mettre en scène. Et pour ça, si vous aimez les histoires, oui, tu allais dire.
C'est ce que j'ai dit avec Rod Serling, à la base, est auteur et scénariste.
Oui, bien sûr. Ouais.
Il joue le narrateur, en fait, dans Twilight Zone, mais parce qu'en fait, je crois qu'il n'y avait pas grand monde qui pouvait faire ça à ce moment-là. Ils trouvaient pas un acteur pour le faire, donc du coup, je vais le faire moi.
Il le fait, oui.
Mais à la base, il n'est pas spécialement acteur, il est vraiment scénariste, ce qui explique pourquoi il est aussi prolifique sur la rédaction d'épisodes.
Ouais. Et après, son rôle de narrateur, ça se cantonne souvent à des débuts et des fins d'épisodes. Il présente, et souvent, en fait, on a l'impression qu'il lit son script. C'est assez rigolo, on a l'impression qu'il lit un script. Et
ah bah c'est littéralement ça. Hein. C'est ça, pas ouais. très bon acteur, Rod Sterling. Donc oui, c'est littéralement ça. Il lit son script sur un prompteur, je crois, et c'est tout.
Il introduit l'épisode et il le termine. Et dans les DVD, il y a ce petit ajout qui est inédit en France. C'est que Rod Sterling introduisait, à chaque fin d'épisode, introduisait l'épisode de la semaine suivante. En parlant de l'histoire, du contexte de l'histoire. Aller mettre en scène Twilight Zone la semaine suivante. Donc si vous aimez les creepypasta, et c'est juste ça que j'ai envie de dire dans cette reco en fait, si vous aimez l'ambiance des creepypasta, si vous aimez les histoires à twist, eh ben franchement, allez-y. Si vous n'avez pas encore vu Twilight Zone, c'est une série quand même culte, allez-y, parce que je prends un plaisir assez incroyable à me dire « Ah ouais, d'accord, donc ce twist, cette idée de twist, elle était déjà en 59, elle était déjà là. » Et donc voilà, c'était ma petite reco, et j'ai évidemment regardé ces saisons-là pour attaquer après celle de Jordan Peele que je n'ai pas encore vue parce que je voulais voir les épisodes, tous les épisodes originaux avant d'attaquer celle de Jordan Peele.
Bah, tu verras que justement dans la version de Jordan Peele, il y a un épisode qui se passe pendant les fêtes de Noël justement.
Ah.
Que je pourrais conseiller. Le twist pourra en décevoir quelques-uns. Moi, il a plutôt fonctionné sur moi, mais bon, vous verrez. De toute façon, c'est pas un spoiler de dire qu'il y a un twist. Il y a un twist dans quasiment tous les épisodes de la quatrième dimension.
C'est pas du tout un spoil. Et des fois, même, c'est assez intéressant parce que, en fait, Rod Serling, il dévoilait presque le twist dans la manière de présenter l'épisode suivant. Genre, c'était pas la notion de spoil. On voit que la notion de spoil, elle était pas la même qu'aujourd'hui. Parce que des fois, il disait, et ce personnage, et vous allez voir que ce personnage est piégé dans le temps. Et là, tu regardes l'épisode après, mais en fait, tu l'apprends dans le dernier tiers de l'épisode qu'il est piégé dans le temps. C'est un peu étrange. T'as l'impression qu'il dévoile les twists. Et en fait, c'est plus, le plaisir, il est dans le twist, mais il est pas que dans le twist. Il est dans la manière de produire une situation, la manière de la camper, la manière dont les personnages essaient de se démêler avec ça. Et il y a toujours un truc dans Twilight Zone que je trouve fabuleux, c'est que toujours, quasiment systématiquement, ce qui semble être le salut d'un personnage va être ce qui va le perdre. Et il y a toujours un truc comme ça de ce qui apparaît être bon, ça va être ce qui va perdre le personnage. Et il avait une manière de... Il est extrêmement critique, en fait, Rod Serling, vis-à-vis de tout un tas de choses. Et chaque épisode, on a l'impression qu'il y a quand même un message derrière, il y a un truc. Et ouais, c'était sa manière, malgré parfois d'ailleurs certains censeurs à l'époque, de critiquer par touche ce qu'était déjà la société américaine et ce que pouvait faire la société américaine en termes de guerre et autres en 1959. Donc je recommande vivement, vraiment, les épisodes ont bien vieilli, je trouve, hein, de la série de 59, l'épisode très bien vieilli, donc je les recommande vivement.
D'ailleurs, en parlant de Twilight Zone et de Rod Sterling, je crois que je te l'avais déjà conseillé à toi, mais je le conseille du coup aux personnes qui nous écoutent. Il y a un excellent épisode de Previously, le podcast de télé loisirs, qui est animé par Alain Carazé. Alain Carazé, éminent journaliste qui a consacré sa carrière aux séries télé, qui a fait un épisode sur Twilight Zone et sur la création de Twilight Zone, notamment sur le personnage de Rod Sterling. Comme tu le dis, effectivement, c'était un personnage qui s'indignait contre plusieurs choses, qui avait vraiment des messages politiques à faire passer dans sa série. Et c'est pour ça qu'il a voulu d'ailleurs une totale indépendance sur la manière d'écrire ses scripts. Et ça se ressent dans la série. Donc voilà, ça peut être un très bon complément si vous décidez de vous lancer et de regarder la quatrième dimension, d'écouter cette émission-là. Après, tout Previously par Alain Carazé, c'est bien. Hein.
Ouais.
Mais l'épisode sur Twilight Zone m'avait beaucoup plu, quoi.
Ouais, j'en ai écouté quelques-uns et c'est vrai que c'est assez incroyable la quantité d'anecdotes, d'archives audio. J'ai écouté, alors je l'écoute que sur des séries que j'ai terminées. Parce que j'ai quand même un peu peur du spoil, mais les épisodes que j'ai écoutés sont extrêmement bien documentés en effet.
Puis même quand on connaît pas les séries, c'est intéressant. Moi, par exemple, je ne regarde pas Plus belle la vie, mais l'épisode de Previously sur Plus belle la vie et sur comment la série a été créée, comment elle s'est adaptée à l'actualité au fur et à mesure des saisons, c'est très intéressant. Écoutez, on a les deux produits, enfin le premier producteur de Plus belle la vie et le producteur actuel qui parlent et qui parlent de leur vision de la série. Donc c'est voilà, même si tu regardes pas Plus belle la vie, c'est intéressant. Je trouve que c'est quand même un des plus gros succès de la télé française.
C'est vrai.
Donc voilà, ils ont fait un épisode sur Sheriff aussi, qui parle du côté, ouais, tu vois, des séries de France 2, mais qui parle du côté méta dans la série policière, et donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, je conseille Previously. Et sinon, évidemment, en recommandation culturelle, vous n'allez pas y échapper. Je l'ai déjà fait dans le numéro d'Inspiré de faits réels sur Krampus. D'ailleurs, premier reco, allez écouter l'épisode d'Inspiré de faits réels sur Krampus.
Allez voir Krampus d'abord.
Et allez voir Krampus, regardez-le avant d'écouter l'épisode.
Hein, ouais.
Parce qu'on spoil allègrement dans l'épisode d'Inspiré de faits réels. Et puis, ben, c'est la période des fêtes. Vous êtes peut-être en train de regarder pour faire des cadeaux de Noël, pour vous faire vous-même votre propre cadeau. Sachez que le livre du Bureau des Mystères est toujours disponible en librairie, sur Internet, un petit peu partout. Donc, ça peut être un bon cadeau à offrir à quelqu'un qui écoute l'émission, comme vous, ou si vous voulez lui faire découvrir notre manière d'appréhender les sujets.
C'est l'heure de se quitter. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @BDMlePodcast, sur notre page Facebook Charles et Mathias, et sur le Discord, et vous pouvez aussi nous laisser des avis sur iTunes ou sur d'autres applis.
En tout cas, tous les liens voilà, pour nous retrouver sur les réseaux sociaux sont dans la description de cet épisode, et nous on vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro, et d'ici là, passez de joyeuses fêtes.